par exemple, pour vous réveiller. Et écoutez le journal de Clara Lecoq-Réal que je salue. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des classes allégées, des évaluations plus nombreuses, une chorale mise à disposition des collégiens. Voici entre autres quelques nouveautés de la rentrée scolaire qui débute aujourd'hui. Nous ferons un point complet dans ce journal.
Nous irons aussi dans une école en Jordanie, dans un camp de réfugiés palestiniens. L'agence onusienne qui les gère est à court de financement. Plus de 120 000 enfants pourraient se retrouver aux portes de l'école dans un mois.
Les pays d'Amérique latine se réunissent aujourd'hui pour évoquer les Vénézuéliens, toujours plus nombreux, qui quittent leur pays face à la crise économique et politique. Ils débattront, ces pays, pour la première fois, d'une éventuelle politique commune.
Et puis dans cette édition encore, nous expliquerons la nouvelle procédure de demande d'asile mise en place aujourd'hui en Guyane, une procédure accélérée. Les associations dénoncent déjà des entraves au droit.
Et puis pourquoi le prélèvement de l'impôt à la source crée-t-il des doutes chez l'exécutif? Un politologue évoque l'éventuelle présence de lobby près du pouvoir. Dans un gros quart d'heure, Frédéric Saïs consacrera son billet à Emmanuel Macron. Et à cette question, serait-il en train de devenir un président normal? La sonnerie dans les établissements scolaires a retenti il y a quelques secondes. C'est la rentrée des classes pour 12 400 000 élèves à partir de ce lundi. En primaire, collège, lycée, la fin des vacances va s'échelonner dans les heures et les jours qui viennent. Une rentrée et quelques nouveautés. Comme de tradition, Hakim Kasmi, notre spécialiste éducation, est dans ce studio. Bonjour Hakim.
Bonjour Clara.
Nous faisons le point avec vous sur ces nouvelles mesures mises en place dans le sillon de ce qu'avait annoncé le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, lors de sa prise de fonction l'an dernier. Le dédoublement des classes, d'abord à Kim, continue.
Et oui, c'était l'une des mesures phares du candidat Emmanuel Macron. Alors après les CP en REP+, l'année dernière, cette année, il se fera également en CP en REP et en CE1 en REP+. Ce sont donc 190 000 élèves qui devraient en bénéficier. Une mesure qui ne fait pas forcément l'unanimité chez les enseignants et les syndicats, car pour mettre en place cette mesure, eh bien, si le ministère a bien mobilisé 3 800 postes, il en faudrait selon les syndicats au moins 5 000. Résultat, pour compenser, eh bien la rue de Grenelle a notamment décidé de fermer des classes en zone rurale, prétextant la baisse démographique dans les campagnes. Certaines villes, comme Marseille, ont même décidé purement et simplement de ne pas appliquer le dédoublement en CE1 en REP+, faute de places suffisantes. Au total, en France, Clara, eh bien ce sont 15% des établissements éligibles qui ne pourront pas appliquer le dédoublement, faute de classes suffisantes dans les écoles.
Et la question des classes surchargées, elle se pose maintenant au collège où l'on assiste à une hausse démographique. Ce ne sera pas d'ailleurs sans conséquence sur la qualité de l'enseignement, estime le SNES, le syndicat national des enseignements du second degré. Je vous propose d'écouter à ce propos sa secrétaire générale Frédéric Rollet.
Il y a, ça on peut s'en réjouir, une montée des naissances en 2006. Et les élèves sont dorénavant au collège, arriveront dans 3 ans au lycée. Donc on est entre 26 000 et 30 000 élèves de plus dans le second degré, avec moins de profs. Donc vous voyez bien l'équation, hein, ça veut dire évidemment des classes qui vont être surchargées. Alors on risque d'avoir des classes autour de 35 en lycée et de 30 en collège. Dans beaucoup d'académies, on a augmenté les seuils, par exemple, au-delà desquels on ouvre une division. Pour être très clair, ça veut dire avant, si par exemple on était obligé d'ouvrir une classe de 5e quand on dépassait 28 élèves, maintenant ça peut être quand on dépasse simplement 30 élèves. Du coup, dans les collèges notamment qui accueillent tous les élèves et des élèves donc de niveaux très différents, on va se retrouver avec beaucoup de difficultés à pouvoir s'occuper correctement de chacun.
Voilà pour de premières inquiétudes des syndicats en cette rentrée scolaire. Je me tourne de nouveau vers vous, Hakim Kasmi. D'autres sujets cristallisent le mécontentement.
Oui, à commencer par les évaluations qui, après le CP, se feront eh bien, cette année aussi en CE1, en 6e et en seconde. Une mesure anxiogène pour les élèves qui aura aussi pour but d'évaluer les enseignants et les établissements, comme le rappelle encore ce matin Jean-Michel Blanquer dans les colonnes du Parisien. Autre interrogation, la réforme du bac qui va concerner les élèves qui arrivent dès cette année en seconde. Les programmes et les matières que pourront choisir les élèves en première l'année prochaine ne sont toujours pas fixés. Du côté du ministère, on parle de janvier. Quant à l'interdiction du téléphone portable et son utilisation, qui a été votée, rappelons, cette année à l'Assemblée, cet été, le téléphone sera interdit du CP à la troisième, sauf à des fins pédagogiques. Mais là aussi, enseignants et chefs d'établissement sont dubitatifs quant à l'application de cette mesure. Enfin, en cette rentrée, il y aura de la musique dans chaque école pour commencer l'année. avec l'obligation pour tous les collèges d'avoir au moins une chorale.
Le développement du chant auprès des collégiens, enseignement effectivement obligatoire dans les établissements au collège, enseignement facultatif pour les élèves en cette rentrée. Un plan choral à 20 millions d'euros en partenariat avec le ministère de la Culture. Aurélie Filippiti, vous êtes à nos côtés ce matin, ancienne ministre de la Culture sous François Hollande. Les chorales peuvent-elles, comme le souhaite l'exécutif, tisser des liens avec les partenaires culturels locaux autour des établissements scolaires ?
Oui, bien sûr, les chorales, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, ça existe dans un certain nombre d'établissements, d'ores et déjà. Il n'y a pas que les chorales, hein. Il peut y avoir des partenariats qui soient noués avec des musées, avec des établissements du patrimoine, avec des centres chorégraphiques, des compagnies de théâtre, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent d'ores et déjà et qui sont faites d'ailleurs par les collectivités locales, souvent, enfin, encouragées par les collectivités. Maintenant, le problème, et c'est toujours le même, c'est la généralisation. C'est-à-dire que là, ça ne va pas, les chorales ne vont pas concerner tous les élèves et la question sur laquelle on bute, sur laquelle moi-même j'ai buté, parce que l'éducation artistique était ma priorité, c'est comment on fait pour que finalement tous les élèves soient concernés, c'est-à-dire que ce ne soient pas déjà les élèves qui sont, gérés par leur famille, portés vers la musique, qui se tournent vers la chorale. Et ça, c'est vraiment le point d'achoppement de toutes les politiques de rapprochement.
Merci Aurélie Filippetti. Nous vous retrouvons pour évoquer votre nouveau roman Les Idéaux chez Fayard, juste après ce journal. Rentrée toujours avant cela, rentrée en Jordanie et notamment dans les camps palestiniens. Cette rentrée était un peu particulière hier puisque l'UNRWA, l'agence onusienne qui gère le fonctionnement de ces écoles, fait face à une crise budgétaire. Les États-Unis cessent de la financer. Une décision politique aux conséquences humanitaires dangereuses. Journée de rentrée dans un camp palestinien en Jordanie, c'est un reportage de Jérôme Borozewski.
Des dizaines d'élèves sortent dans la cour de récréation de l'école du camp Al-Wihdat. En cette rentrée, Ahmad, un délégué des élèves, prend la parole devant des diplomates.
Je dois être honnête et vous dire que je m'inquiète pour l'avenir de notre scolarisation.
Car l'UNRWA cherche encore 200 millions de dollars. Les écoles ne peuvent fonctionner que jusque fin septembre. Pierre Crehenbühl, le commissaire général de l'UNRWA, regrette les coupes budgétaires américaines. Les États-Unis ont longtemps été le premier contributeur de son agence.
Ça a changé radicalement maintenant, pour des raisons qui sont entièrement politiques, il faut être clair là-dessus. Et donc maintenant l'UNRWA va aller chercher ses partenariats ailleurs, parce que je ne peux pas m'imaginer, pour être très clair, revenir voir les mêmes élèves. Je devrais leur dire que nous avons échoué dans la tentative de maintenir les écoles ouvertes. C'est quelque chose avec lequel je ne pourrais jamais me réconcilier. Donc on va mettre tout en œuvre pour que les écoles restent ouvertes et que l'éducation reste préservée.
Pierre Crehenbühl estime que Washington a cessé de financer son agence afin de faire pression sur l'autorité palestinienne pour qu'elle accepte de négocier avec Israël et les États-Unis. L'aide humanitaire est donc monnayée.
Lors de ma dernière visite à Washington, avec des entretiens à haut niveau en novembre de l'année passée, j'étais encore dans une situation où on me félicitait ouvertement sur les mesures prises, la façon de fonctionner de l'organisation, et de me retrouver quelques mois plus tard avec un message totalement inverse m'amène vraiment clairement à penser qu'il s'agit d'un enjeu de nature politique. C'est pas une bonne stratégie et il faut absolument l'éviter.
Plusieurs États et organisations ont promis cette semaine d'augmenter leur contribution à l'UNRWA, comme l'Allemagne et l'Union européenne.
Un musée tout entier qui brûle, les flammes parcourant les allées, détruisant tableaux, sculptures, squelettes, insectes, météorites, archives. Voilà ce qui se passe depuis minuit cette nuit au Brésil, à Rio de Janeiro. Le musée national de la ville part en fumée. Il abritait 20 millions d'objets au total, ce qui en faisait l'un des musées les plus fournis du Brésil et d'Amérique. L'incendie, dont on ne connaît pas la cause, n'a a priori pas fait de victimes. Le président brésilien Michel Temer se montre pessimiste ce matin. Aujourd'hui est un jour tragique pour le Brésil, écrit-il. 200 ans de travail, de recherche et de connaissances ont été perdus. Le directeur adjoint de ce musée national dénonce, lui, le manque de soutien de la part des autorités. Le bâtiment date de 1818 et n'a jamais été mis aux normes, dit-il. Ils vont discuter du flux important de migrants qui fuient le Venezuela depuis des semaines. Les ministres des Affaires étrangères d'Amérique du Sud et des Caraïbes se réunissent aujourd'hui à Quito, en Équateur. Ils seront 13 au total, Eric Sanson.
En Amérique latine, les pays les plus touchés par l'arrivée massive de migrants vénézuéliens sont la Colombie, le Pérou et l'Équateur dans cet ordre. Mais toute la région est concernée. Cette migration massive et forcée pose des problèmes d'emploi, de santé publique, de sécurité et d'accès à l'éducation pour les enfants vénézuéliens, problèmes qui gagneraient à être traités au niveau régional. Un exemple parmi d'autres, Bogota, Quito et Lima ont déjà annoncé qu'ils allaient partager les renseignements concernant les centaines de milliers de migrants traversant leurs frontières. Le gouvernement colombien a en effet identifié un nombre important de migrants ayant demandé et obtenu des certificats temporaires de résidence en Colombie, mais également en Équateur. Ces personnes reçoivent donc les mêmes bénéfices des deux côtés de la frontière, alors qu'elles ne devraient y avoir droit qu'une seule fois. Selon le directeur de migration colombien, Christian Kruger, cette pratique abusive empêche de nombreux migrants d'avoir accès à toute aide, les fonds destinés à faire face à cette vague migratoire sans précédent n'étant pas infinis. Autre problème que les pays de la région souhaitent résoudre ensemble, celui de la réapparition de maladies comme la rougeole ou la diphtérie suite à l'état calamiteux de la santé publique au Venezuela.
L'agence de presse internationale Reuters dénonce des accusations montées de toutes pièces contre deux de ses reporters. Ils ont été condamnés ce matin à 7 ans de prison en Birmanie, accusés de s'être procuré des documents relatifs aux opérations des forces de sécurité birmanes face aux Rohingyas dans l'état de Rakhine en fin d'année dernière. En bref, accusés d'avoir enquêté sur le massacre de cette minorité musulmane, l'ONU appelle à leur libération. 18 blessés et une nouvelle manifestation anti-migrants qui tourne mal. Voici le bilan du week-end à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne. En réaction toujours au meurtre d'un Allemand la semaine dernière, après une altercation avec deux étrangers. Et ce débat migratoire va se poursuivre aujourd'hui, puisque la justice se penche sur un autre meurtre. C'était il y a 8 mois à Kandel. Un Afghan en situation irrégulière tuait au couteau son ancienne petite amie allemande, âgée de 15 ans. Le procès doit donc se dérouler ce matin.
8h11 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement teste à partir d'aujourd'hui une procédure d'asile spécifique en Guyane.
Oui, avec l'idée de faire baisser le nombre de demandes qui a explosé dans cette région française ces dernières années. Un migrant aura désormais 7 jours et non plus 21 pour déposer sa demande d'asile à l'Office français des réfugiés, Christine Monclat.
Il faut accélérer pour mieux réduire, accélérer le traitement des dossiers pour réduire les demandes d'asile. Équation maintes fois énoncée par les précédents gouvernements et répétée ici par Emmanuel Macron. C'était lors de son passage à Cayenne l'an dernier. Le décret publié cette fois-ci au cœur de l'été traduit l'intention en acte par le biais de cette expérimentation spécifique à la Guyane. Les délais d'instruction sont donc réduits à 15 jours et le demandeur n'a plus qu'une semaine pour déposer sa requête contre 3 jusque-là. Il devra aussi venir en personne, remettre son dossier et récupérer la réponse auprès de l'Office des réfugiés, l'OFPRA. Auparavant, cela se faisait par courrier. Derrière ce que l'Association de défense des étrangers, la CIMADE, nomme un parcours d'obstacles, le gouvernement cherche à dissuader les candidats haïtiens qui sont majoritaires parmi les demandeurs d'asile en Guyane et dont le nombre a doublé depuis 2015. Mais le taux d'acceptation de leurs demandes est très faible, pas plus de 3%, car leur motivation, principalement économique, n'entre pas dans les critères d'obtention du titre de réfugiés. C'est cette demande d'asile considérée comme inadaptée au droit que le gouvernement veut donc réduire en Guyane. L'expérimentation est prévue sur 18 mois et sera évaluée chaque trimestre. Et l'on peut déjà imaginer que les premiers résultats seront conformes aux souhaits des autorités. Car en effet, sans même avoir démarré cette expérimentation, le nombre de demandes d'asile reçues par l'OFPRA vient d'être divisé par 2 en quelques mois.
Le remaniement du gouvernement pourrait être annoncé dans les prochaines heures, aujourd'hui ou demain, pour que les ministres soient au complet lors du prochain conseil mercredi. Et l'on sait déjà que Daniel Cohn-Bendit ne sera pas ministre de la Transition écologique en remplacement de Nicolas Hulot. Une fausse bonne idée selon l'écologiste qui souhaite garder, dit-il, sa personnalité et sa liberté. Daniel Cohn-Bendit n'exclut pas toutefois d'être tête de liste La République En Marche pour les élections européennes en mai prochain. Autre dossier épineux duquel doit se faire Emmanuel Macron cette semaine, le prélèvement de l'impôt à la source. Le dispositif doit être mis en place en janvier prochain, mais le fisc a relevé 350 000 bugs avec des prélèvements en double. C'est ce qu'expliquait ce week-end le quotidien Le Parisien. Des soucis qui ont été réglés, précise le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Au sommet de l'État, on insiste depuis quelques jours sur la faisabilité d'une telle mesure, sur sa complexité, sa dimension psychologique aussi sur les contribuables. Mais tous ces arguments sont là pour noyer le poisson, d'après Martial Foucault, politologue, directeur du CEVIPOF. Il croit plutôt à l'irruption au sommet du pouvoir et dans le débat de groupes de pression catégoriels ou politiques. Et il donne des exemples.
Le MEDEF a clairement indiqué depuis l'automne dernier que cette réforme n'était pas une priorité et qu'il fallait prendre plusieurs années pour s'assurer de ne pas transformer les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, en collecteurs d'impôts. Donc aujourd'hui, peut-être que cette voie a fait assez mouche et Emmanuel Macron comprendrait les motifs d'insatisfaction des opposants au prélèvement à la source.
Alors quel autre groupe d'intérêt que le MEDEF pour intervenir sur ce dossier précis?
Il y a un débat technique sur la fiscalité. Est-ce que c'est pas le moment, avec le prélèvement à la source, de remettre en place ce que, dans l'ancien gouvernement et sous la présidence de François Hollande, certains tentaient de convaincre François Hollande d'une fusion entre l'impôt sur le revenu, la CSG. Donc il y a un certain nombre d'économistes qui sont favorables à cette fusion et qui souhaiteraient que ce gouvernement engage une réforme de la fiscalité plus progressive pour pouvoir toucher plus fortement les hauts revenus du travail, mais aussi du patrimoine.
Le directeur du CEVIPOF, Martial Foucault, répondait à Mathieu Laurent. Là, il ne s'agit pas officiellement d'un impôt sur la culture, mais d'un loto, jeu de grattage, pour financer la sauvegarde du patrimoine français. Il est lancé aujourd'hui avec un jeu de tirage, ensuite le 14 septembre, pour les journées du patrimoine. De belles éclaircies sont prévues aujourd'hui sur l'Hexagone et les températures toujours douce, avec 17 degrés ce matin à Strasbourg, 19 à Brest et Lille, 20 degrés à Paris, Grenoble, 24 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.